Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons parler d'un virus qui concerne pas moins de 67% de la population et dont on parle finalement assez peu. Ce virus, c'est celui de l'herpès. Il faut dire que dans la plupart des cas, l'infection est asymptomatique, dormante. Et au cours de cette émission, nous allons parler de deux virus herpès simplex. Le plus fréquent, le type 1, principale cause de lésions au niveau de la bouche, des lèvres, mais il peut aussi atteindre la zone sexuelle. Nous parlerons aussi du virus de type 2, transmis par voie sexuelle et qui, lui, touche un peu plus de 10% des adultes. C'est la principale cause de l'herpès génital. On va évoquer les symptômes, le caractère récidivant de cette infection après une première poussée qui peut être assez sévère. Des crises qui peuvent être déclenchées par des facteurs variés en fonction des personnes, qu'il s'agisse de stress, d'une maladie, de l'exposition au soleil ou chez les femmes, des menstruations. En termes de traitement, à l'heure actuelle, les produits prescrits limitent les symptômes mais ne débarrassent pas l'organisme du virus. Un virus courant donc, et nous verrons que dans certains cas, des complications existent en termes d'immunité ou au cours de l'accouchement. Diagnostic et prise en charge de l'herpès, certains gestes à éviter, identifier les facteurs déclenchants, espacer les poussées, prévenir la transmission. Et avec nous dans les studios de RFI, on vous retrouve, docteur Jean-Marc Bobotte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue et andrologue, responsable de l'unité génitale et directeur médical à l'Institut Alfred Fournier à Paris. On va retrouver tout à l'heure en Guinée le professeur Tierno Mamadou Tunkara, qui est dermatologue vénérologue au CHU de Conakry. Et puis en fin d'émission, on parlera alimentation, nutrition avec Bintou Chersek, nutritionniste et diététicienne à Dakar au Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Bobotte, l'herpès est une famille de virus, une grande famille. Aujourd'hui, dans cette émission, on va s'arrêter en particulier sur l'herpès simplex, pas facile à dire, qui se distingue de l'autre virus herpès, qui est à l'origine d'autres maladies bien connues. On pense d'abord à la varicelle, on pense aussi au zona, deux autres infections associées à des symptômes qui sont, là encore, visibles sur la peau. Est-ce que finalement, c'est le point commun général ?
C'est ça, c'est le point commun général, même s'il y a d'autres virus de la famille herpès qui donnent des symptômes un petit peu différents, mais généralement c'est effectivement au niveau de la peau et des muqueuses que ça se passe.
Alors dans le cas de l'herpès labial ou génital, deux types de virus sont en cause, et ce qui est important de souligner d'emblée, c'est que la très grande majorité des personnes qui sont concernées, qui sont porteuses du virus, eh bien elles n'en ont aucun signe avant de faire un test.
Absolument. Et d'ailleurs, on déconseille fortement de faire le test parce que c'est très anxiogène. S'il n'y a pas de manifestation clinique, il y a très peu de risques de contamination ou de transmission de l'herpès. Il faut commencer à avoir des poussées d'herpès pour pouvoir éventuellement faire un diagnostic. Mais faire un dépistage systématique, ça n'aboutit à rien vu qu'il n'y a pas de traitement. Et que de toute façon, il n'y a pas de solution à apporter, mais c'est très anxiogène. C'est une maladie, la principale complication de l'herpès, surtout l'herpès génital, c'est psychologique. Parce que c'est une maladie incurable, parce qu'on n'a pas de traitement, et on est toujours à la merci d'une poussée, et généralement, c'est toujours au mauvais moment.
Donc, je vais gratter là où ça fait mal. Vous dites que ce n'est pas la peine de se dépister. On comprend quand on voit les chiffres de l'OMS, 67% de la population concernée. Donc, en vrai, si on va faire un test, on a plus d'une chance sur deux d'être positif. En même temps, on peut transmettre l'herpès quand on est asymptomatique ?
Alors, 67%, c'est pour l'herpès labial.
Labial, bien sûr.
L'herpès génital, c'est 10 à 12%. Oui, alors, on peut transmettre le virus même si on n'a pas de symptômes, mais généralement, c'est ce qu'on appelle ces formes asymptomatiques. Elles évoluent dans un contexte où il y a déjà des symptômes cliniques. Et donc, entre les symptômes cliniques, on peut avoir des excrétions virales asymptomatiques. Il est exceptionnel que quelqu'un qui n'a jamais eu de symptômes d'herpès crache du virus dans ses sécrétions génitales ou dans la salive.
Est-ce qu'on peut avoir le virus en quelque sorte, si on utilise cette image, qui dort très très longtemps dans l'organisme et qui se réveille du jour au lendemain?
Et oui, et ça pose problème essentiellement pour l'herpès génital, dans la mesure où bien sûr ça fait jamais plaisir au sein d'un couple stable de voir arriver un virus dont on sait qu'il ne se transmet que par rapport sexuel. Mais la transmission peut avoir eu lieu des années avant, ce qui n'empêche quand même que voir réapparaître l'amant ou la maîtresse précédente sous forme de virus, c'est jamais très agréable pour le couple.
Mais attention, ça ne veut pas dire que ça a été dans les 6 mois précédents, forcément.
Non, ça peut être dans les 6 mois précédents, mais ça peut être aussi dans les 10 ans ou 15 ans précédents.
Est-ce que la première poussée est différente des autres ?
Alors, la première poussée, c'est très variable. Généralement, on dit toujours, classiquement, on dit que la primo-infection, c'est-à-dire la première manifestation de l'herpès, elle est très violente. Oui, parce que l'organisme n'a pas encore développé d'anticorps. Donc, elle est généralement beaucoup plus violente. Et après, ce qu'on appelle les récurrences, c'est-à-dire les poussées ultérieures, sont beaucoup plus soft. Et donc, il y a moins de symptômes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la primo-infection peut passer complètement inaperçue. Parce qu'il peut y avoir des formes diverses. Et ça peut être confondu, par exemple, chez la femme avec une mycose. Ça peut être confondu avec une angine en cas d'herpès buccal. Donc, ça peut passer inaperçu et se révéler par des récurrences des années plus tard.
Alors, il y a une question, on peut se demander si la réponse n'est pas précisément dans la question. Maryse du Bénin qui demande comment se transmet l'herpès génital.
Exclusivement par rapport sexuel, mais j'allais dire avec tous les types de rapports sexuels. C'est-à-dire, c'est pas simplement une pénétration. Ça peut être aussi un rapport orogénital, comme un cunnilingus ou une fellation. Il suffit d'avoir une lésion au niveau de la lèvre pour transmettre au niveau du sexe de son partenaire ou de sa partenaire. Donc, tous les types de rapports sexuels peuvent être contaminants.
Ce qui est important, on l'a compris, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de formes asymptomatiques. Également, c'est la récidive. C'est le deuxième caractère de l'herpès. Quand il se manifeste, quand il y a des lésions, il risque pas d'y en avoir une seule.
Non. Généralement, les récidives surviennent de manière plus fréquente la première année qui suit la contamination ou la primo-infection. Mais là, encore une fois, l'herpès, il n'y a pas de règle. Hein. On peut rester pendant des années sans faire de récurrence et puis, en raison d'un stress, d'une fatigue, etc., faire beaucoup de récurrences l'année suivante. Donc, il n'y a pas de règle. Mais généralement, le nombre de récurrences diminue avec l'ancienneté de l'infection.
Tout de suite, une illustration. Rencontre avec Adrien, il a 32 ans, il est atteint du virus de l'herpès. Il s'est confié à notre reporter Divine Berthou sur son quotidien avec la maladie, du dépistage jusqu'à l'annonce à son entourage. Et on va l'entendre, hein. Ça revient à ce que vous nous avez dit tout à l'heure, docteur Bobot, le très fort impact sur le plan psychologique.
C'était en novembre 2021. Lors d'une soirée, en fait, j'ai rencontré une femme avec qui, au final, j'ai fini par coucher. Cette personne m'avait dit de ne pas mettre le préservatif parce qu'elle prenait la pilule. Et 6 mois après, je suis allé voir un médecin et le médecin m'a dit en fait qu'au vu des symptômes, il pouvait me dire que j'avais l'herpès génital. Je ne sais pas quel type, il y a le HSV1 et le HSV2. Alors j'ai eu un traitement, j'ai eu une pommade et j'ai eu des médicaments décachés.
Au départ, quand vous avez appris la nouvelle, comment est-ce que vous vous êtes senti ?
Alors je me suis senti coupable déjà de ne pas m'être fait dépister plus tôt puisque j'ai mis potentiellement la santé d'une personne en danger. Parce que il faut savoir que moi j'étais en relation en fait quand je l'ai appris avec une autre personne. Donc c'était compliqué pour moi mais aussi compliqué pour la personne. Donc ça a été un peu la double peine. C'est un moment où on réfléchit pas trop, en fait, on comprend pas trop, en fait, ce que ça va amener tout de suite, en fait. Et après, bon, bien sûr, on s'y fait, voilà, la vie avance. Mais oui, ça a été assez dur, psychologiquement, en tout cas, ouais. J'ai fortement pensé à consulter un psychologue, j'ai même demandé conseil à des amis. Je ne l'ai pas fait. C'était une petite dépression, mais c'est passé.
Et aujourd'hui, ça fait un an et demi. Que vous vivez avec la maladie, comment elle se manifeste sur vous ?
Je suis un peu chanceux parce que ça la manifeste très peu, très rarement. Ça va être des picotements en fait que je traite avec des huiles essentielles en préventif en fait pour éviter qu'il y ait apparition de symptômes. Mais j'ai la chance, j'ai pas de récidive depuis en fait l'été dernier.
Vous me parliez de médecine douce. Est-ce que c'est votre médecin qui vous a conseillé ces produits ?
Non. Il y a un groupe Facebook francophone, justement, qui est assez intéressant et utile, puisque ça rassemble les personnes qui ont de l'herpès oral ou génital. Et les gens sont là pour donner des conseils. Et les huiles essentielles sont un des remèdes, justement, en tout cas pour les symptômes.
Comment avez-vous abordé ce sujet avec votre entourage ?
Alors, enfin, moi, j'ai eu de la chance. Enfin, c'est une chance. J'ai un ami qui est homosexuel et qui est beaucoup plus au courant que moi des IST, des MST, et qui va, lui, se faire dépister très régulièrement. Et lui, ça a été la première personne à qui je l'ai annoncé. Et c'est lui qui m'a accompagné, d'ailleurs, à me faire dépister. Donc, j'en remercie. Et après, je l'ai annoncé à des amis parce qu'il fallait le dire et qu'il fallait qu'ils comprennent que ça allait pas aussi. Donc, mais c'est là où aussi on peut s'apercevoir que très peu de gens en fait connaissent vraiment cette maladie en fait et les symptômes. Moi, j'ai rencontré récemment un homme qui ne savait même pas que l'herpès en fait était à vie. Des fois, je n'ai aucune gêne et ça dépend des personnes aussi. C'est-à-dire que des fois, c'est plus facile de le dire à des inconnus que de le dire à des personnes qu'on connaît, mais on ne sait pas trop comment on va le prendre, si les relations vont changer. Pour l'instant, je ne l'ai pas annoncé à ma famille parce que je pense que ça pourrait peut-être les angoisser plus qu'autre chose. Donc, je ne l'ai pas fait. Voilà, les personnes que je connais à qui je peux faire vraiment confiance, ils sont au courant. Mais bien sûr, il faut faire beaucoup plus de prévention, il faut bien sûr beaucoup plus en parler, parce qu'en fait, je pense que si cette IST circule, en fait, c'est que les gens ne sont pas assez sensibilisés. C'est surtout ça, en fait. Et j'ai l'impression qu'en plus, les jeunes générations, ce que je dis dans les articles, se protègent de moins en moins. Donc je pense que c'est ça aussi qui est important, en fait. La prévention, en fait, et l'information sur les IST, en fait.
L'herpès, docteur Jean-Marc Bobot, vous avez bien suivi ce témoignage. Une IST, c'est la plus fréquente des IST.
Ça fait partie des plus fréquentes, ouais. Oui, effectivement. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que l'herpès, tout le monde connaît inconsciemment l'étymologie du mot herpès, qui veut dire ramper, comme un serpent. Ouais. Et donc, c'est cet aspect sournois. On ne sait jamais quand la poussée va arriver. On ne sait jamais si ça va être au moment d'une nouvelle relation, etc. Et c'est très anxiogène.
Ouais. L'herpès, c'est une question de vocabulaire aussi, hein. Par exemple, on a une question de Cleaver de RDC qui demande... Ben oui, c'est important. Si les boutons de fièvre sont différents de l'herpès buccal ou labial.
Ah non, c'est exactement ça. La même chose, hein. Boutons de fièvre, c'est l'herpès, c'est synonyme d'herpès.
Feu sauvage aussi, on dit au Canada, oui, francophone, oui, oui. Au Québec. Comment éviter la transmission en cas de boutons de fièvre, justement, demande Cleaver.
Alors, en cas de bouton de fièvre, on n'embrasse personne, on n'a pas de rapport sexuel orogénital et on attend la cicatrisation complète des lésions avant de reprendre une activité sociale amoureuse.
Quand on dit on n'embrasse personne, y compris sur les joues, surtout pas un bébé, hein, ça c'est...
Surtout pas un bébé.
Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, mais ne me t'inquiète pas, c'est pas sorti ou c'est cicatrisé, là on oublie, hein,
oui,
complètement.
Il faut attendre la cicatrisation complète et la disparition même des cicatrices pour pouvoir reprendre les petits bisous. En particulier pour les enfants et les nouveau-nés, puisque une grande partie des nouveau-nés se contaminent avec l'herpès après l'accouchement.
Alors, on va prendre des questions d'auditeurs en direct dans quelques instants. On rejoindra aussi certains de ces auditeurs au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Docteur Bobot, on va retrouver l'un de vos confrères en ligne de Conakry. Ce sera juste après le duo Captain Planet et David Walters avec « Qui t'essouffle ?».
Thank you. cacciatlone, caffè cacciatlone, l'esprit male cacce. Chi te souffre, chi te souffre derrière, chi te souffre, c'est le mental.
Priorité santé sur RFI, on parle aujourd'hui de l'herpès, forme symptomatique, forme dormante, atteinte orale ou génitale. On continue d'échanger avec notre invité en studio, le docteur Jean-Marc Bobot, infectiologue, andrologue, directeur médical de l'Institut Alfred Fournier à Paris. Et on prend tout de suite la direction du Cameroun.
RFI à Maroua, 101.6 FM.
Janvier, bonjour.
Bonjour.
Alors Janvier, vous avez été personnellement diagnostiqué pour un herpès génital. Suite à quels symptômes?
J'avais quelques symptômes, comme une pression au niveau du pubis et une miction fréquente. Et je crois qu'au début, j'avais aussi une inflammation au niveau de la gorge, en fait.
Ça, c'était la première poussée. Ce diagnostic, il a été établi quand? Et est-ce que vous avez passé des examens pour ce faire?
Oui, en fait, le diagnostic n'a pas été fait tout de suite là. Donc, je crois qu'il y a cela de 10 ans, lorsque j'ai ressenti les premiers symptômes, je me suis fait consulter plusieurs fois. Les médecins, généralement, me disaient que je souffrais soit de la cystite ou de la prostatique. C'est vrai qu'en fait, ils recherchaient des maladies comme le chlamydia, syphilis et pas du tout l'herpès.
Cette occasion, excusez-moi de vous poser la question, parce que je sais que c'est possible d'échanger avec vous sur ce sujet. Vous avez fait un test VIH à cette occasion?
Oui, justement. À chaque fois, il me faisait le test du VIH.
Et à chaque fois, c'était négatif, hein, c'est ça?
Oui.
Alors, est-ce que vous ressentiez des douleurs quand il y avait les poussées, donc associées à des lésions?
Je pense que la pression était beaucoup plus au niveau du gland. Donc, je sentais une sorte de chaleur désagréable au niveau du gland. C'est, je crois, il y a de cela 5 ans lorsque j'ai été diagnostiqué, parce que la pression était tellement forte, la mission très fréquente. Je crois que je pouvais me lever environ 8 fois chaque nuit pour aller aux toilettes. C'est là qu'on m'a diagnostiqué l'herpès.
Est-ce que vous aviez, quand vous aviez ces douleurs, ces crises, ou même en général, suite à ça, vous avez utilisé le préservatif ou pas vraiment?
Au début, puisque je n'étais pas vraiment sexuellement actif, je ne pouvais pas avoir... ça ne m'intéressait pas beaucoup, en fait, parce que je n'étais pas sexuellement actif au début.
Et aujourd'hui, est-ce que vous prenez des médicaments? Est-ce que vous consultez systématiquement 4 poussées?
La dernière fois, je crois, il y a cela 7 mois, je me suis fait consulter. On m'a prescrit, je crois, le levier 400. Mais le problème, c'est que à chaque fois, j'ai du mal à aller consulter parce que les médicaments sont extrêmement chers. Vous imaginez, le traitement, je crois, c'est entre 30 000 et 40 000. Et le SMIC au Cameroun se trouve entre 40 000 et 60 000 francs. Donc, c'est extrêmement cher. Ce qui fait que j'ai adopté une petite astuce, en fait.
C'est quoi cette astuce?
C'est de mettre des glaçons au niveau du pubis ou du pénis. Et je crois que ça rétablit, en ce qui me concerne, ça diminue un peu les poussées.
Mais vous mettez quelque chose, j'imagine, entre le glaçon et entre votre pénis, parce que sinon, vous risquez d'avoir des engelures. Je m'excuse, je ris, mais ça doit être extrêmement douloureux. Il y a quand même des précautions à prendre s'il y a des auditeurs qui écoutent par rapport à ça. Alors, vos questions au docteur Bobot, c'est quoi précisément?
Bon, en fait, je me suis rendu compte que ces derniers temps, les poussées sont plus, les fréquences sont plus réduites. J'aimerais savoir s'il y a un moyen de pouvoir faire en sorte que ces poussées soient plus, les fréquences soient plus un peu plus longues, en fait, sur le mois ou des années, pour éviter, en fait, de prendre des médicaments tout le temps. Donc, c'est là ma première question.
Oui.
Et ma deuxième question, c'est de savoir si ces poussées, en fait, cachent, en fait, une maladie sous-jacente. Ou est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent favoriser justement cette poussée? C'est ma deuxième question. Et la dernière question, c'est en fait, j'ai lu sur Internet quelque part que le fait que les poussées soient très, les fréquences soient très réduites, cela peut engendrer un problème au système nerveux de la personne malade. Ou peut-être si la personne a des enfants, cela peut affecter aussi le système nerveux des enfants. Je ne sais pas si c'est vrai.
Ah d'accord. Donc là, il y a beaucoup de questions. Elles sont toutes très intéressantes. On sent une inquiétude quand même chez notre auditeur janvier, docteur Jean-Marc Bobok, quand il dit « Est-ce qu'il n'y aurait pas une deuxième maladie cachée derrière l'herpès ?» Déjà, ce qu'on sait, ce qui est très important, c'est qu'il a fait le test du VIH, il a fait le test de la syphilis, il a fait le test des chlamydia. Donc déjà, il y a moyen de le rassurer au moins sur ces trois points-là. Là.
Oui, non, bah, l'herpès, il n'y a pas de maladie cachée derrière. Hein. L'herpès. C'est un virus à part entière. Et donc, pour répondre à votre question, janvier, pour espacer les poussées, malheureusement, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de solutions, à part le fait de prendre un médicament très régulièrement. Et donc, chez les patients qui font beaucoup de poussées d'herpès, hein, moi, j'ai des patients qui font des poussées d'herpès tous les mois, voire plus. Mmh. À ce moment-là, on donne un traitement, ce qu'on appelle un traitement suppressif, qui ne guérit pas, mais qui est un traitement à prendre tous les jours et qui permet d'espacer les poussées.
Autrement, ça veut dire qu'on le traite comme une maladie chronique. Hein.
Exactement. Et donc, c'est des traitements qu'on peut prendre pendant 6 mois, un an, voire plus, quand il y a effectivement des poussées très récidivantes. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est des traitements qui coûtent cher et c'est des traitements qui, de toute façon, ne guérissent pas. Donc, il faut aussi vraiment être rassuré par rapport au risque de complications. Les complications de l'herpès surviennent surtout chez les sujets qui sont immunodéprimés. Mmh. Et donc, effectivement, il y a des risques d'atteinte au niveau méningé en particulier. Mais c'est exceptionnel. Et encore une fois, ça ne touche qu'une partie de la population qui est déjà extrêmement fragilisée. Et d'autre part, le fait de transmettre la maladie, l'infection à un enfant, ça ne peut se passer que si la mère est atteinte. Et donc, à ce moment-là, si la mère est porteuse du virus de l'herpès, au moment de l'accouchement, si elle fait une poussée d'herpès, elle risque de contaminer son enfant. Donc, il faut être quand même très rassuré par rapport à l'évolution de cette maladie. Il n'y a pas de maladie cachée derrière. Les complications, c'est très exceptionnel. Et pour la grossesse, maintenant, on sait exactement comment gérer les femmes enceintes qui sont porteuses du virus.
Janvier, qu'est-ce que vous pensez de ces explications ?
Non, je crois que cette herpès, ça me rassure surtout au niveau des complications, en fait, parce que ça me faisait peur de temps en temps.
Mais c'est très bien que vous soyez rassuré, mais n'hésitez pas aussi à en parler à votre médecin et voir éventuellement s'il y a moyen de mettre en place un traitement au long cours. Bien sûr, on a compris les difficultés financières, ça concerne beaucoup de monde, il ne faut pas non plus l'occulter, mais de voir quand même s'il n'y a pas moyen de mettre en place ce genre de traitement. On vous souhaite une très très bonne journée. On a une question qui va nous permettre justement, là encore, d'aborder la question des complications possibles. C'est Issa du Tchad, il nous a envoyé ce message. En fait, deux questions sur la page Facebook de Priorité Santé. Comment est-ce qu'on peut prévenir une infection intra-utérine ? On y revient parce que c'est vrai que c'est une question générale. Il y a pas mal de craintes par rapport à ça chez une femme enceinte qui a des lésions herpétiques génitales. Quelle est la conduite à tenir ? Deuxième question, mais c'est toujours un peu dans la même ligne. Quand la grossesse arrive à terme ?
Alors, première des choses, le risque maximum, c'est une femme qui va faire une primo-infection herpétique à proximité de l'accouchement. Parce que là, le virus peut rester présent dans les voies génitales pendant plusieurs semaines, et donc avec une quantité de virus très importante. Par contre, les femmes qui font des récurrences d'herpès pendant la grossesse, c'est-à-dire une femme qui a depuis longtemps un herpès, le risque de transmission est extrêmement faible. À l'heure actuelle, on ne fait plus de césarienne, c'est plus indiqué. Simplement, si une femme fait une poussée d'herpès pendant la grossesse, on va lui donner un traitement, ce qu'on appelle un traitement suppressif, dans les dernières semaines de grossesse, c'est-à-dire un traitement à base d'antiviral, et comme ça, l'enfant naîtra sans aucun risque d'avoir été contaminé.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de contre-indication entre ces médicaments et la grossesse ?
Pas du tout. Et donc, ça permet de prévenir la contamination de l'enfant. Donc, maintenant, on a vraiment tous les moyens pour qu'on ne voit plus cette herpès néonatale qui faisait tellement de dégâts chez les nouveau-nés.
Voilà pour cette réponse. On part pour le Bénin maintenant à Cotonou. Une auditrice qui est en ligne avec nous, c'est Ève. Ève, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors, Ève, vous avez 30 ans et vous avez des lésions d'herpès buccal depuis déjà plusieurs années. Est-ce que vous avez été diagnostiquée ? Est-ce que vous êtes allée voir un médecin pour avoir ce diagnostic ?
Bon, non. En fait, au départ, j'avais des lésions, des petits boutons et après qui se transformaient, pas des plaies. Et c'était douloureux. Donc, je m'étais rendue à l'hôpital, mais ils n'ont pas diagnostiqué les cellules mais ils m'ont dit que c'est une exertion causée par le virus candido.
Donc un virus dans la bouche, justement, par rapport à ces lésions, elles étaient présentes ou à l'intérieur des joues ou sur les lèvres. Est-ce que vous pouvez nous décrire le lieu d'implantation des petits boutons ou des vésicules?
Au départ, ça venait sur les lèvres, mais au fil du temps, ça a commencé par prendre l'ampleur dans toute la bouche. Après, ça disparaît, après ça revient.
Et pour vous faire ce diagnostic à l'hôpital, est-ce qu'on vous a fait un prélèvement ou c'était juste sur les bases de l'observation clinique?
Non, on m'a fait un prélèvement. J'avais même eu à faire le test du VIH. J'ai fait plusieurs tests.
Des tests sanguins, mais est-ce qu'on vous a fait des prélèvements au niveau, on va dire, des bobos, par exemple avec un coton-tige, pour essayer de savoir à quel virus ou à quel agent infection on était confronté? Vous avez eu que des tests sanguins ou aussi des tests sur la lésion?
Des tests aussi sur la lésion.
D'accord. Donc, a priori, les gens savaient de quoi il s'agissait quand ils vous ont fait ce traitement. Pourquoi est-ce que vous avez des questions par rapport à l'herpès? Parce que c'est pas parti, ces boutons, dans la bouche?
Non, ça revient et puis ça part.
Donc, en fait, votre question, c'est de bien distinguer les deux infections, c'est ça?
Oui.
Docteur Bobot, qu'est-ce que vous pouvez répondre à notre auditrice Ève?
Alors, je dirais que des lésions avec des petites plaies dans la bouche, ça peut être effectivement une candidose, mais ça peut être aussi des aftes. Et les aftes, c'est pas d'origine infectieuse, c'est récidivant. Et c'est vrai que quand on fait des prélèvements sur les lésions et qu'il s'agit d'aftes, bah évidemment, ces prélèvements reviennent négatifs pour le virus de l'herpès. Donc, d'autre part, il faut être quand même très très précis sur les prélèvements. On sait très bien que un prélèvement pour qu'on découvre le virus de l'herpès, il doit être fait extrêmement précocement après le début des lésions. Si les lésions sont apparues depuis 2 ou 3 jours, on n'a pratiquement plus aucune chance de retrouver le virus. Donc, moi, ce que je préconise souvent, c'est quand on voit les lésions tardivement, je laisse une ordonnance à la patiente ou au patient lui disant la prochaine fois, dès que vous avez une lésion, vous allez immédiatement au laboratoire pour faire un prélèvement. Comme ça, si c'est négatif, là, on est sûr que ce n'est pas de l'herpès. Mais là, pour Eve, je pense que le diagnostic peut être éventuellement d'aftes. Les aftes, ça récidive.
Ça récidive. Donc, peut-être retourner consulter en période de crise. Hein.
Voilà,
c'est bien ce qu'on a compris. Très bonne journée à Cotonou. C'est à présent à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qu'on retrouve Thomas. Thomas, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour docteur Bobot.
Bonjour Thomas.
Alors, vous êtes âgé de 67 ans. Récemment, vous avez développé une infection qui a un lien avec l'un des virus de l'herpès. Expliquez-nous ce qui vous est arrivé précisément, s'il vous plaît.
Merci, Caroline. En fait, j'écoute l'émission avec d'autant plus d'intérêt qu'au mois de mai dernier, j'avais contracté un zona. J'avoue qu'aujourd'hui, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Alors, pour vous la faire courte, je dirais que j'avais consulté un médecin dans les 24 heures de l'apparition des premiers symptômes. Alors, les premiers symptômes, c'était essentiellement 3 petites pustules sur le flanc droit. Heureusement, ils étaient très visibles, donc je n'étais pas passé à côté. Alors, j'avais consulté un médecin et commencé un traitement dans les 48 heures. C'était essentiellement de l'acyclovir, de la nucléoforte et de l'éosine, si ma mémoire ne me joue pas de tour. La surface fut donc assez circonscrite, mais très douloureuse et gênante. Alors j'avoue qu'en dehors d'épisodes de fatigue, de stress, peut-être aussi de mon âge, j'avais un régime alimentaire particulièrement riche en arginine, c'est-à-dire beurre d'arachide, soja, en plus de compléments alimentaires arginine, disant que ça ne faisait pas de, ça ne ferait pas de bien, ça ne ferait pas de mal. Alors ma question in fine, c'est, est-ce que l'arginine pourrait être un facteur déclenchant et exacerbant du zona et accessoirement, est-ce que les populations végétariennes feraient-elles plus de zona que la moyenne de la population mondiale? Dans un premier temps, voilà les questions.
Alors, des questions sur le lien en fait indirect entre l'herpès et certains aliments. Moi, j'ai une question, Thomas, parce que je suis curieuse. Pourquoi est-ce que vous consommez autant d'arginine? Parce que vous êtes végétarien, justement?
Non, alors ça correspond à une période où, ne voulant pas faire la cuisine, mon épouse n'étant pas en place, je voyais une cuisine de façon simplifiée. Et dans le cas de l'arginine, je pense que j'avais quelques sachets. J'en avais acheté un peu, me disant que bon, ça ne pouvait que me faire du bien. Et voilà.
Ouais, ouais.
Mais sinon, a priori, je ne le suis pas, j'avoue.
Oui, mais en même temps, manger de la poudre à la place d'un aliment, ça n'a jamais fait ses preuves, hein, on a vu. Faites plutôt aller au restaurant s'il n'y a personne pour vous faire la cuisine. C'est un conseil de Caroline, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est intéressant de savoir, parce que c'est vrai qu'on a entendu déjà plusieurs auditeurs dire « je suis allé voir sur Internet », il y a beaucoup de choses sur Internet, notamment, est-ce qu'il y aurait des liens éventuels entre l'alimentation, des prédispositions ou davantage de poussées herpétiques, voire même de zona? Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Bobot?
Alors déjà, on n'a aucune une étude sur le sujet, tout ce qu'on peut dire, c'est que le fait d'avoir une alimentation déséquilibrée, ça agit sur le microbiote intestinal et que tout ce qui est ce qu'on appelle nous des dysbioses, c'est-à-dire des déséquilibres du microbiote intestinal, ça modifie les réponses immunitaires. Donc, et ça augmente les phénomènes inflammatoires. Donc, bien sûr, en présence d'un virus dormant, parce que je vous rappelle que le virus du zona, c'est le virus de la varicelle, et ce virus, vous l'avez à vie dans l'organisme, tout ce qui peut déséquilibrer vos défenses immunitaires, donc pourquoi pas une alimentation déséquilibrée, c'est probablement une cause à prendre en compte dans la gestion de cette infection récidivante.
Avec le stress, là encore, on peut avoir toujours des facteurs combinés.
Alors, il faut bien comprendre que tous les virus herpétiques ont quelque chose en commun, c'est qu'ils adorent les nerfs, et en général, ils sont toujours à l'état latent dans un ganglion nerveux, et donc tout ce qui stimule, tout ce qui exacerbe les réactions nerveuses, ça peut réactiver le virus également. Donc le stress est un facteur de risque. Et puis l'âge aussi, parce qu'on pense qu'effectivement les défenses immunitaires diminuant avec l'âge, ça peut réveiller le virus. Mais je rappelle qu'il existe un vaccin pour les personnes âgées qui permet de limiter ces poussées qui sont, comme l'a dit Thomas, extrêmement douloureuses et très invalidantes.
Le vaccin contre la varicelle en l'occurrence.
Contre le zona.
Contre le zona,
oui.
D'accord. Thomas, une dernière question parce que je suis vraiment curieuse. Aujourd'hui, vous avez repris une alimentation équilibrée. C'est fini matin, midi et soir au beurre de cacahuète?
Je pourrais en prendre accessoirement, mais je n'en ferai pas mon alimentation de base.
Juste pour le plaisir, alors. Juste pour le plaisir.
Voilà, c'était ça.
Voilà,
alors, si
c'est
vous permettez, Caroline, j'ai encore une dernière question.
Oui, allez-y.
Vous n'avez pas d'autre.
Oui, allez-y.
Alors, c'est le fait de Dr Bobot a suggéré qu'on fasse un vaccin du zona.
Oui.
Mais j'ai l'impression que, ça, c'est mon point de vue, que le vaccin peut être personnel. Assez invasif. Est-ce que je pourrais en lieu et place prendre de l'acyclovir une fois, je ne sais pas, tous les 36 du mois, ou à une fréquence que le docteur Bobot pourrait recommander, et prendre éventuellement aussi de la cléophore en lieu et place d'un vaccin?
Alors, première chose, juste parce que vous dites le vaccin est assez invasif, ça c'est un point de vue personnel, docteur Bobot, jusqu'à présent, contre les infections, on n'a jamais fait mieux qu'un vaccin.
Déjà, et puis d'autre part, je ne vois pas ce qu'il y a de plus invasif à faire un vaccin par rapport à prendre un médicament, l'acyclovir, qui est quand même un médicament qui est un antiviral majeur et qui peut, et à terme, on le sait très bien, avoir un effet de toxicité sur les reins ou sur le foie. Donc, bien sûr, c'est exceptionnel ces cas de toxicité, mais quand même, ça ne sert absolument à rien de faire un traitement préventif. Parce que le jour où vous allez arrêter l'acyclovir, votre virus va en profiter pour se réactiver. Donc non, vous vivez, mangez équilibré, faites un peu de sport et là vous allez booster votre immunité, ça sera beaucoup plus naturel.
Voilà pour ces conseils. Thomas, juste un petit mot parce qu'on a essayé d'avoir Moussa qui est au Mali. Il a 42 ans et on lui a diagnostiqué un herpès aux yeux. Dans les explications, on lui a dit que ça se transmettait par la salive, mais il ne sait pas comment il l'a attrapé parce que, selon lui, dans son entourage, personne n'a de l'herpès. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce témoignage de Moussa ?
Alors c'est vrai que l'une des complications fort heureusement très rares de l'herpès et en général de l'herpès buccal, c'est la kératite herpétique, c'est-à-dire l'infection des yeux, qui est extrêmement douloureuse et qui peut provoquer des séquelles avec des cicatrices qui peuvent gêner donc la vue. Souvent c'est à la suite d'une auto-contamination, c'est-à-dire qu'on est porteur du virus et puis on met le doigt dans la bouche ou sur les lèvres et on se frotte les yeux après. Et là on se transmet le virus. La transmission, comme on l'a souvent dit, la transmission de l'herpès, ça peut être occasionné par des contacts avec des gens qui n'ont pas eu de poussée ou qui ont une poussée très ancienne et qui s'en souviennent pas. Donc c'est difficile de remonter, de faire une enquête pour savoir quand on a pu être contaminé et avec qui.
En tout cas, on voit dans son message que Moussa, lui, est traité quand il a des crises. C'est déjà un bon signe pour éviter d'éventuelles complications.
Absolument. Et donc, parfois, on est même obligé de faire des traitements quasi continus.
On va maintenant partir pour la Guinée.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
En ligne avec nous, professeur Tierno Mamadou Tunkara. Bonjour professeur.
Bonjour Caroline.
Vous êtes dermatologue vénérologue au CHU de Conakry. Professeur, est-ce que l'herpès est une infection connue du grand public, d'une large part de la population dans votre pays en Guinée?
Alors déjà, bonjour à Dr Bobot et à vos millions d'auditeurs. Il faut bonjour. Dire tout de suite que je pense qu'à l'image de son confrère qui a intervenu, l'herpès ne semble pas être très connu par la population dans sa globalité. Il arrive quelquefois que quelques patients viennent voir en consultation parce qu'ils ont glané des informations ça et là à travers Internet maintenant. Mais globalement, les gens ne connaissent pas l'affection.
Est-ce que vous constatez aussi que l'herpès est souvent confondu avec d'autres affections, y compris par le personnel soignant?
Oui, et ça arrive, et c'est particulièrement vrai pour l'herpès labial, où souvent, pour une raison qu'on n'arrive pas totalement à cerner, beaucoup confondent l'herpès labial à une avitaminose, par exemple, dans le contexte. Ce qui fait que pour la plupart du temps, les gens qui consultent sur nous, ils consultent plus quand il y a un herpès génital qu'un herpès labial, parce que aussi c'est quelque chose de bénin, ça passe rapidement, mais qui est pris à tort pour une autre affection. Tantôt les gens prennent des compléments alimentaires pensant qu'ils traitent une avitaminose, mais en réalité c'est de l'herpès labial qui est très courant d'ailleurs.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'automédication, c'est ça?
Oui, il y a de l'automédication, c'est certain.
Alors, on a compris depuis le début de cette émission, les traitements soulagent, ils limitent les poussées, mais ça n'empêche pas la récidive. Est-ce que le caractère récidivant, ça complique la prise en charge? On l'a déjà entendu tout à l'heure avec un premier auditeur du Cameroun, parce qu'il y a le facteur financier. Et puis, il y a aussi parfois la compréhension. Les gens ne comprennent pas que finalement, ça ne marche pas. Et ils disent, bah, finalement, c'est parce que le médecin était mauvais.
Alors, c'est à deux niveaux. Premièrement, le côté financier, certes, parce que le contexte, il n'y a pas de couverture sociale, il n'y a pas d'assurance maladie, mais c'est surtout le fait que quand dans un dialogue avec un patient, on vous dit que ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas, mais on arrive à soulager. Très souvent, si le message n'est pas précisé, les gens ont tendance à dire à quoi bon de prévoir les médecins. Et parfois, il arrive qu'on pense que c'est une erreur diagnostique. Et actuellement, avec l'influence pour certains de l'accès à l'Internet, la possibilité de faire le tri n'est pas développée à ce point. Les gens ont tendance à dire, bon, écoute, peut-être je dois me tourner vers une autre option. Mmh. En l'occurrence, la pharmacopée traditionnelle qui reste encore très accessible.
On a entendu tout à l'heure avec le docteur Bobot que grâce justement au progrès de la médecine, des traitements, des prises en charge et du suivi notamment, on avait moins de complications, par exemple chez la femme enceinte. Est-ce que c'est la même chose, professeur Tunkara, dans votre contexte?
Alors, dans notre contexte, là, c'est vrai que les formes compliquées sont de moins en moins fréquentes et ça s'explique parce que dans un passé plus ou moins éloigné, c'était le fait que l'infection par le VIH était constamment associée surtout à l'herpès génital. Donc il y avait des formes carrément fleuries d'herpès qu'on rencontrait. Mais avec la tendance actuelle, oui, les complications sont de plus en plus rares.
Ça veut dire que l'amélioration de la prise en charge du VIH a permis d'améliorer la prise en charge de l'herpès?
Oui, parce que le docteur Bobot le disait si bien tout à l'heure, tout ce qui déséquilibre l'immunité, faut-il rappeler que maintenant, dans le contexte, on dépiste les gens un peu plus tôt, donc ce n'est pas un stade où ils sont profondément immunodéprimés, et cela a contribué aussi à modifier un tout petit peu la présentation clinique des cas d'herpès qu'on rencontrait en pratique hospitalière.
Donc c'est plutôt un message d'espoir, ça fait plaisir dans cette émission. Un dernier message pour les auditeurs et les auditrices peut-être sur la prévention, la contamination?
Alors, le message, c'est de se tourner vers un praticien, un prestataire de soins, et de savoir que le fait de ne... Certes, on ne peut pas guérir l'herpès, mais on peut considérablement améliorer le confort du patient. Et surtout un message qui revient quand c'est l'herpès génital, c'est la question de savoir où est-ce que je l'ai eu. Mmh. Évidemment, personne ne peut dire où est-ce qu'on a attrapé le virus une fois. Et ça arrive très fréquemment. Il faut bien que les gens comprennent que oui, il y a des mesures de prévention et c'est sur la prévention qu'on doit accentuer les efforts.
Avec notamment le port du préservatif. Merci beaucoup, professeur Tunkara. Merci d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouve, docteur Bobot, pour la conclusion de notre échange. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose sur le lien entre VIH et herpès ?
Non, en sachant qu'effectivement, une meilleure prise en charge, comme l'a dit mon confrère, une meilleure prise en charge du VIH, ça permet de limiter considérablement les effets négatifs de l'herpès. Et puis, en sachant que l'herpès favorise aussi l'acquisition du VIH, parce qu'à partir du moment où il y a une inflammation ou une irritation des muqueuses, ben, il y a davantage de possibilités de contracter le virus.
En quelques secondes, docteur Bobot, parce qu'on ne l'a pas évoqué, c'est très important. Quand on souffre d'herpès, il y a des médicaments très fortement contre-indiqués.
Oui, alors bien sûr, surtout ne pas mettre de n'importe quelle pommade ou n'importe quelle crème, en particulier des pommades à la cortisone, et puis éviter de faire de l'automédication sans savoir, demander toujours conseil à un praticien ou à un pharmacien.
Les antibiotiques, ça ne sert à rien.
Non, absolument pas.
Donc, une nouvelle fois, les antibiotiques, ce n'est pas contre les virus.
Absolument.
C'est la base de la médecine. Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Bobot. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et tout de suite, on va parler alimentation et nutrition dans Priorité Santé après une petite pause musicale.
Ma bio pianza, via salanza, mi sala, mi sala, qua. Da quella mutuco, io che le mutu munza ya yo. Un mono chacucho, mi andu a cugana choca vuecu se. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Baby, I've been so bad, so long, so long, so long, so Yapingi bashishidi kembo myanza zabawo yoka yoka ka tukunwa kumuntoto mu nzambi sebiyo kalazo la ikeleve wetusa apika lulendo akeriko akeriko shina oploda
Bien manger, bien se porter, c'est le moment de vous retrouver. Bintou Chersek, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, nutritionniste diététicienne à Dakar au Sénégal, on va parler prévention aujourd'hui, prévention de la goutte. Et pour cela, quels changements apporter dans notre alimentation pour éviter un excès d'acide urique? Alors, comme d'habitude, on commence par le béaba avec deux définitions. Qu'est-ce que c'est que l'acide urique et qu'est-ce que c'est que cette maladie, la goutte?
Alors, l'acide urique, c'est un dérivé tout à fait naturel du métabolisme, la transformation en fait des protéines, et plus précisément des protéines qu'on appelle les purines. Mais cet acide urique peut s'accumuler dans le sang lorsqu'il est produit en excès ou lorsque son excrétion hors de l'organisme dans les urines est insuffisante. Et dans ce cas-là, quand l'acide urique s'accumule dans le sang, on appelle ça l'hyperuricémie. Et ce taux d'acide urique, lorsqu'il est vraiment élevé et que des mesures hygiéno-diététiques et même des mesures médicamenteuses ne sont pas prises, cet excès d'acide urique se dépose dans les articulations, et ce qui déclenche des réactions inflammatoires extrêmement douloureuses, Caroline, qu'on appelle la goutte.
Bintou Chersek, qu'est-ce qui peut causer cette accumulation de l'acide urique dans le sang?
On a noté 4 mécanismes possibles. D'abord, il y a ce qu'on appelle un mécanisme idiopathique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout pourquoi. Après investigation, on n'a pas de raison particulière, de cause particulière. Deuxième chose, ça peut être dû à des maladies du rein, comme l'insuffisance rénale. Donc je disais qu'il faut que l'action du rein pour excréter l'acide urique. Et donc quand le rein ne fait pas bien son travail, l'acide urique s'accumule. Il y a aussi des causes héréditaires. Il y a ce qu'on appelle la néphropathie hyperuricémique familiale, et ce qui va causer une accumulation d'acide urique. Et puis enfin, il y a l'apport. Quand l'apport alimentaire excessif en protéines est le cas, c'est ce qui nous concerne d'ailleurs dans cette chronique, plus particulièrement ces fameuses purines, eh bien on peut avoir une accumulation d'acide urique.
Alors on va s'intéresser précisément à ces aliments à peut-être consommer en bien moindre proportion du côté des solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait modifier dans l'alimentation pour réduire le taux d'acide urique ?
Alors, quand on est dans cette phase où l'acide urique est vraiment élevé, il faut carrément éliminer certains aliments jusqu'à ce qu'ils baissent. Première chose, et là je dirais, prenez vos stylos et vos papiers, parce que c'est une longue liste. Première chose, c'est les abats. Donc, ce qui est foie, rognon, les tripes, tout ça. La viande de mouton, très bonne viande.
Ça va être difficile, ouais.
Je sais, mais il faut, en tout cas, pendant un temps, éliminer la viande de mouton. Tout ce qui est viande et poisson en conserve. Donc, on parle corn bœuf, qui d'ailleurs n'est pas un bon aliment de toute façon, mais pas le style thon, sardine, etc. Les viandes séchées ou fumées, malheureusement, qui sont très prisées chez nous en Afrique. Les crustacés, que ce soit les crevettes, les moules, les crabes, etc. Les huîtres. Les charcuteries, entre parenthèses, qu'il faut limiter de toute façon. Toutes les boissons sucrées, que ce soit les jus de fruits, les sodas, etc. Et enfin, les boissons alcoolisées. Et en plus, il faut même limiter, que ce soit la viande, la volaille, le poisson, il faut limiter les portions, c'est-à-dire pas plus de 150 grammes par repas. Et même certaines espèces de poissons sont à limiter, comme le brochet, la truite, les carpes, le thon, parce qu'ils sont particulièrement riches en purines.
Est-ce qu'à l'inverse, il y a des aliments conseillés, on peut dire, ceux qui aident à réduire le taux d'acide urique dans le sang, donc des conseils alimentaires pour aller mieux?
Heureusement, oui, il y a des aliments qui contribuent à réduire le taux d'acide urique, notamment l'eau et particulièrement les eaux gazeuses. Donc, à peu près 2 litres par jour à boire tout au long de la journée. Il y a aussi le café, mais sans sucre, toujours. Et le thé vert, toujours sans sucre, à volonté. Et pour le café quand même et le thé, à ne pas consommer au-delà de 16 heures pour éviter les troubles du sommeil. Et enfin, il y a les produits laitiers, mais toujours allégés en matière grasse. Et là, 2-3 portions par jour, eh bien, ça aide à réduire ce fameux taux d'acide urique.
Merci beaucoup, Bintou Chersek. Tous ces conseils, on peut les réentendre sur le podcast de l'émission Priorité Santé à toute heure de la journée ou même de la nuit. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise Priorité Santé. Ophélie Lassène, Louise Caléda, Didier Bleu, Valentin Blanc. On se retrouve demain dès 9h10 temps universel.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.